Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, grand mystère, et heureusement que nous avons eu notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarnée, en sorte que qui m'a vu, a-t-il dit, a vu le Père. Saint Philippe, apôtre, posait la question, « Montrez-nous le Père et cela nous suffira. » Enfin, Philippe, n'as-tu pas compris que qui m'a vu, a vu le Père. Nous continuons donc à chercher à mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et ce faisant, nous ne nous éloignons pas de la fête du jour. Au contraire, cela nous aidera à entrer plus profondément dans le mystère de Dieu. Saint Thomas d'Aquin pose une question après avoir demandé si notre Seigneur Jésus-Christ avait la grâce, et nous avons vu qu'il avait nécessairement la grâce sanctifiante, sinon sa nature humaine aurait été comme un boulet, même pas comme une charrette, parce que dans une charrette on met quelque chose, comme un boulet que la divinité aurait traîné. En réalité, cette nature humaine est élevée, et je vous ai dit qu'elle était le modèle de toutes les natures humaines élevées par la grâce. Après avoir vu, et j'espère compris, que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature humaine, dans son âme humaine, bien entendu, possédait la grâce sanctifiante, saint Thomas d'Aquin pose une autre question. Notre Seigneur Jésus-Christ possédait-il la vertu? À ceux qui ont la foi sur le mystère de Jésus-Christ, la question peut paraître inutile et oiseuse. En réalité, elle est très importante parce que, tout d'abord, elle nous aide à comprendre le mystère du Christ, et puis elle nous montre de façon beaucoup plus vivante ce que nous avons étudié à propos des vertus. La vertu telle que nous l'avons étudiée dans les sermons que nous y avons consacrés, elle était belle, très belle. Vertu infuse donnée par Dieu, c'est très beau. Mais elle va prendre un relief, une hauteur, une richesse supplémentaire lorsque nous l'étudions en notre Seigneur Jésus-Christ. Première question de saint Thomas d'Aquin, donc notre Seigneur Jésus-Christ possédait-il la vertu? Et il est important de se poser cette question parce que il est important de comprendre la place de la vertu dans la vie humaine, dans la vie chrétienne, je veux dire. Voici la réponse de saint Thomas. L'effet immédiat de la grâce est de justifier l'homme, de le rendre agréable à Dieu, de le constituer fils adoptif de Dieu, en le faisant participer à la nature divine. L'effet média, c'est-à-dire intermédiaire, la conséquence, est de perfectionner et de rendre surnaturelle son opération par les vertus infuses. Non, pardonnez-moi, ce n'est pas saint Thomas qui écrit cela, mais un commentateur. Il faut bien comprendre que une chose est d'élever la nature en la mettant au niveau de Dieu. Autre chose est qu'il y ait la suite, parce qu'une nature doit agir. La nature, c'est la fin, il y a une fin à poursuivre. Et cette fin, l'homme l'obtient par l'opération de ses facultés, son intelligence, sa volonté, et puis même les facultés moins élevées, c'est par là qu'il obtient sa fin. Vous voyez, c'est une chose que le Concile Vatican II n'a pas voulu admettre, et que le pape Jean-Paul II a complètement renié dès sa première encyclique, qui s'appelait, je crois, Redemptor Hominis, le Rédempteur de l'homme. Jean-Paul II, comme le Concile, affirme qu'il suffit que le Fils de Dieu se soit uni à la nature humaine pour que toute nature humaine soit sauvée, avec une petite condition, évidemment, qui n'est même pas d'adhérer par la foi à Jésus-Christ, mais de vivre honnêtement une vie humaine. C'est l'erreur du Concile Dignitatis Humanae, le document sur la liberté religieuse, la dignité de l'homme. Et vous avez deux dignités dans l'homme. Vous avez la dignité de son être et la dignité de son opération. Par exemple, vous avez le fils du roi. Le fils du roi a une dignité dans son être parce qu'il est fils de roi. Encore faut-il qu'il ait une dignité dans son opération, c'est-à-dire qu'il se conduise en fils de roi. Si le fils du roi ne se conduit pas en fils du roi, soit parce qu'il se conduit en homme vulgaire, voire même en criminel, soit parce que tout simplement il ne se conduit pas du tout, il ne fait rien, il traîne dans les salons, il ne fait rien. Il a beau avoir une dignité dans son être, il n'a pas la dignité dans son action. Or, la dignité dans l'action est la raison de la dignité dans l'être. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'être fils de roi si on n'agit pas en fils de roi ? Vous savez bien, c'est le propre de l'adoption. Un roi peut très bien adopter un enfant. En France, ça ne se fait pas, mais dans d'autres pays, cela peut se faire. Peut très bien adopter un enfant du peuple, de le prendre dans sa famille, le considérer comme son fils. Et le but, c'est qu'il se comporte en fils de roi. Sinon, à quoi servait l'adoption ? Nous avons donc la grâce qui vient élever notre nature par l'adoption. Nous devenons fils du roi, et fils, c'est entrer dans la famille, c'est-à-dire que c'est une union très intime. Encore faut-il que nous nous comportions en fils de roi, et c'est la vertu qui va élever notre comportement. Lorsqu'il s'agit d'un homme adopté par le roi, il va y avoir une éducation, avec tout l'aspect humain de l'éducation. Lorsqu'il s'agit du roi des cieux, il y a plus qu'une éducation, il faut un don, il faut une transfusion des vertus qui ne sont pas acquises par l'éducation, qui sont directement données par Dieu, en plus de celles qui sont acquises, ce sont les vertus infuses. Nous avons déjà vu cela en étudiant la vertu, je crois. Notre Seigneur avait-il les vertus ? Bien sûr, parce que sinon, encore une fois, sa nature humaine aurait été un boulet. Sa nature humaine n'aurait pas posé des actes en rapport avec la dignité du Fils de Dieu. Et alors, comment la rédemption serait-elle possible si la nature humaine de Jésus-Christ n'y prend pas sa part ? Donc cela ne fait pas de difficulté. Et saint Thomas d'Aquin ne va pas insister sur la vertu de notre Seigneur. Il va cependant poser quelques questions, l'une sur la foi, l'autre sur l'espérance, et la troisième sur la crainte. Pourquoi? Parce que ces vertus, la vertu de foi, est une vertu qui a quelque chose d'imparfait. Elle nous fait connaître Dieu, elle nous le fait vraiment connaître, donc elle est la première attache avec Dieu dans nos actions, n'est-ce pas? Pas dans notre être, puisque c'est la grâce dans l'être. Elle est notre première attache avec Dieu, seulement cela reste une attache quand même imparfaite, voilée, sur des vérités que nous connaissons mais que nous ne voyons pas. De même, l'espérance nous fait posséder le bien de Dieu qui est nôtre, seulement nous ne l'avons pas encore. Cette vertu d'espérance est un secours qui nous est donné par Dieu pour nous appuyer sur lui en sachant qu'il nous donnera ce bien qui sera nôtre et qu'il nous rendra heureux. Elle est d'autant plus importante, d'une part, que ce bien, nous ne le possédons encore qu'imparfaitement, quand même un peu, hein, heureusement, mais imparfaitement, et que surtout, ce bien est ardu, difficile. Donc saint Thomas pose la question, ces deux vertus, avec leurs limites, Jésus-Christ les possédait-il? Et il répond non. Il répond non, pourquoi? Alors, réponse de la foi. Là, pour le coup, c'est saint Thomas qui parle, qui écrit. Le Christ avait la vision de Dieu, dans sa nature humaine, hein? Puis à part la conjonction avec la nature divine, il avait, nous en reparlerons lorsque nous parlerons de la science de Jésus-Christ, il voyait Dieu, puisqu'il voyait le Verbe, la nature humaine voyait le Verbe, donc elle voyait Dieu, directement, sans obstacle, sans parfaitement, vous voyez. Donc saint Thomas nous dit, le Christ avait la vision, qui est plus parfaite que la foi. Fin de citation. Voilà pourquoi notre Seigneur avait mieux que la foi. Il avait la lumière des bienheureux. Dire que notre Seigneur n'avait pas la foi, cela n'est pas le diminuer, c'est au contraire dire que, vu sa dignité de fils de Dieu par nature, alors que nous ne sommes que des fils de Dieu par adoption, évidemment, sa nature humaine était déjà au ciel. Deux considérations. Premièrement, en considérant cette perfection de Jésus-Christ qui voyait Dieu face à face, cela nous montre la perfection de la vie du Christ dans une profonde union à son Père. Cela nous fait comprendre la richesse de la vie intérieure du Verbe incarné. Je n'insiste pas, mais vous aurez intérêt, mes bien chers frères, à méditer sur ce sujet. C'était une des grandes méditations de Monseigneur Lefebvre. Je vous recommande le livre Le Mystère de Jésus, que la Fraternité Saint-Bilice, évidemment, n'a pas réédité. Ce sont des impies qui ne rééditent pas les œuvres de leur père. Mais j'en ai encore quelques exemplaires et je suis tout prêt à les céder à ceux qui les désirent. Monseigneur Lefebvre méditait longtemps, il aimait regarder cette vie intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'union avec son Père. Deuxième considération par rapport à nous, cela montre la profonde unité entre la vie sur terre et la vie éternelle. Dieu se communique en se conformant à notre condition naturelle de nature terrestre, mais il se communique réellement avec le but de nous libérer des conditions terrestres pour qu'il n'y ait plus de limites. En Jésus-Christ, ces limites sont déjà levées à cause de sa perfection, c'est-à-dire que tout en vivant dans un corps humain, les limites de ce corps humain sont déjà levées. Parce que la nature est assumée, la nature humaine est assumée par la nature divine. et nous-mêmes, bien qu'il y ait des limites, Dieu que Jésus-Christ voit dans son âme, c'est le même Dieu que nous, nous voyons par la foi. Notre vision est voilée. Elle est imparfaite, elle est voilée. Elle est une vision de l'esprit sans une vision directe. Chez Jésus-Christ, le voile était complètement levé, et en plus avec une perfection qui lui est propre. Mais il y a un rapport. Cela montre qu'une nature humaine est capable de voir Dieu, et que donc il y a une profonde unité entre la vie du ciel et la vie ici-bas. C'est uniquement dû à nos conditions humaines que la vie ici-bas soit si imparfaite. Et voilà pourquoi l'Église dit que ici-bas, nous sommes engendrés, nous sommes portés dans le sein de l'Église, comme un enfant est porté dans le sein de sa mère, et que nous attendons, au jour de notre mort, à naître à la vie du ciel, une nouvelle naissance. Trop souvent, les chrétiens ont tendance à séparer, à dire il y a la vie du ciel, il y a la vie de la terre. Bien sûr, la vie de la terre mérite la vie du ciel. En réalité, elle est plus qu'un mérite, elle est déjà un début. Chez Jésus-Christ, elle est plus qu'un début, mais chez nous, elle est un début. Et le fait de voir cette nature humaine de Jésus-Christ si profondément unie à Dieu est un très grand encouragement pour nous. Après la foi, saint Thomas d'Aquin pose la question de l'espérance et la réponse va être semblable. C'est le même raisonnement. L'espérance est à propos de quelque chose qu'on n'a pas, un bonheur personnel qu'on ne possède pas encore et surtout qu'on risque de ne pas posséder. Notre Seigneur Jésus-Christ le possédait. Et nous pouvons faire les mêmes considérations sur cette profonde union, cette profonde joie communiquée par Dieu au Fils de l'homme, à la nature humaine de Jésus-Christ, une joie extraordinaire, une perfection extraordinaire, et en même temps, nous dire que cette perfection en nous, puisque nous sommes chrétiens, est déjà commencée. Et qu'il n'y a donc pas de différence essentielle entre la vie du ciel et la vie ici-bas, il y a une différence de condition. Saint Thomas ne pose pas la question savoir si notre Seigneur avait la charité, parce que là, il n'y a aucune difficulté. Lorsqu'on a étudié la charité, nous l'avons fait trop brièvement, hélas, mais quand on a étudié la charité, qu'on a compris que la charité est une union totalement désintéressée avec l'ami, dans un idéal commun, qui fait que tout est commun entre les deux amis. Alors c'est évident que cette vertu est la plus parfaite de tous, de toutes, et que par conséquent, notre Seigneur la possédait avec une perfection extraordinaire. Voilà pourquoi il n'y a pas à se poser de questions. On pourrait même poser la question, notre Seigneur avait-il la vertu de prudence? C'est une évidence. Nous le verrons mieux lorsque nous verrons la science en notre Seigneur. La vertu de justice, c'est une évidence. Ta justice était enrichie par la charité d'une façon extraordinaire. Donc, là-dessus, pas de problème. Le don de crainte. Notre Seigneur avait-il le don de crainte? Tout d'abord, avait-il les dons du Saint-Esprit? Oui, bien sûr. Et voici ce que dit saint Thomas. Le Christ avait les dons du Saint-Esprit, car les dons sont des perfections apportées aux facultés de l'âme pour les rendre aptes à être mues par le Saint-Esprit. Voyez, le Fils du roi doit être tellement digne de son Père que lorsqu'il s'agit du Père du ciel, le Père du ciel ne se contente pas de nous demander d'agir, il nous prend en main. Je reprends saint Thomas d'Aquin. Or, il est manifeste que l'âme du Christ était mue, c'est-à-dire prise en main, de la manière la plus parfaite par le Saint-Esprit. Car il est écrit en saint Luc, Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint du Jourdain et il fut poussé par l'Esprit, l'Esprit Saint, dans le désert. Il est donc évident que les dons se trouvaient dans le Christ sous un mode très excellent. Oui, c'est une évidence. Dieu, la nature divine communique à la nature humaine de Jésus-Christ tout ce qu'il y a de plus parfait, et s'il manquait les dons alors qu'il y aurait autre chose, ça serait incompréhensible, absolument pas logique. Dieu donne nécessairement à la nature humaine de son Fils. Jésus-Christ communique à sa propre nature humaine la perfection la plus parfaite qui soit, et notamment d'être parfaitement dans la main de Dieu, d'être totalement mu par Dieu. C'était le but. L'homme s'est échappé de la main de Dieu, c'est le péché. Il fallait qu'il fût ramené à la main de Dieu, ramené dans la main de Dieu, complètement soumis à l'action de Dieu. Il est évident que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le réalise à la perfection. Alors même problème que pour les vertus, le don de crainte. Parce que la crainte, quand même, ça suppose que soit on risque de perdre le bien, de faire une grosse bêtise, soit d'être puni. En réalité, non. Il est évident que notre Seigneur n'avait pas cet aspect du don de crainte. Il ne risque pas de faire une bêtise ni un péché, il n'y a pas de danger. Ni d'être puni par son Père, il n'y a pas de danger. Mais il était dans la révérence de son Père. Et donc la crainte, le don de crainte, qui est une crainte filiale, non pas une crainte servile de celui qui a peur de se faire punir. Une crainte filiale, de la révérence, une crainte de respect, vous voyez. Et alors oui, ça, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ était plongée dans un respect de Dieu extraordinaire. Pour bien le comprendre, vous avez les anges, et nous voyons ça dans la préface de la messe, « Tremun potestades », les puissances tremblent devant Dieu. Elles ne tremblent pas de la crainte servile, c'est évident, elles tremblent de la belle crainte filiale, cette crainte dont saint Thomas d'Aquin dit qu'elle est la perfection de l'amour. Elle est un amour porté si haut que la seule chose qu'on craigne lorsqu'on est homme, c'est de ne pas aimer autant qu'on devrait. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, ça n'est pas cela. C'est la perfection de l'amour, c'est-à-dire l'amour apporté en hommage à Dieu son Père, si grand et si puissant. Voici les considérations que nous avions à faire aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois, avec la fête de Dieu, comment cette union avec Jésus-Christ se réalise en nous. Je vous rappelle que la fête de Dieu, c'est le jeudi. N'oubliez pas de sanctifier jeudi prochain. Et le dimanche est la solennité de la fête de Dieu. Profitez-en bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.